France Culture.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Dans ce journal, nous serons en Ukraine. Bombardement meurtrier hier, une frappe russe a fait au moins 18 morts dans la ville natale du président Zelensky. Les droits de douane, la nouvelle arme économique de Donald Trump. Dès aujourd'hui, ils sont relevés 10% supplémentaires pour les produits importés aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois que le pays utilise une telle pratique. Nous y reviendrons avec notre invité Pierre Gervais. Situation inquiétante sur l'île de la Réunion. 10 000 nouveaux cas de chikungunya par semaine. Le plan bleu a été déclenché. Aucune trêve en Ukraine. Le pays est encore sous le choc ce matin après l'une des frappes russes les plus meurtrières de ces dernières semaines. Hier soir, un missile a frappé la ville de Kryvyi Rih. Bilan au moins 18 morts, dont 9 enfants, selon les autorités locales. Faustine Kamel, vous êtes à Kiev pour France Culture. Le missile s'est écrasé dans un quartier résidentiel à Kryvyi Rih, donc. Et c'est une ville stratégique, Faustine.
À seulement 80 km de la ligne de front, Kryvyi Rih est une cible privilégiée de l'armée russe pour sa proximité, sa densité, 600 000 habitants avant le début de la guerre, son symbole aussi, ville natale du président ukrainien. Elle a souvent été présentée comme point fort de la résistance, mais aussi point stratégique. Kryvyi Rih, c'est un verrou entre le sud, en partie occupé par les Russes, et l'est de l'Ukraine. Mastodonte de la sidérurgie, usine et mine d'acier en font un des atouts économiques majeurs du pays. Alors oui, pour toutes ces raisons, elle subit des bombardements russes répétés. Mercredi dernier, déjà, 4 personnes sont mortes dans un tir de missile. Dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky a dénoncé des frappes qui ne peuvent être accidentelles. Une preuve que la Russie, dit-il, ne veut pas d'un cessez-le-feu et que la diplomatie ne signifie rien pour Moscou. Les autorités militaires russes assuraient l'avoir visé un restaurant où se trouvaient des commandants ukrainiens et des instructeurs occidentaux. À Kryvyi Rih aussi, cette guerre est une guerre de communication, alors que les négociations autour d'une trêve patinent.
Faustine Kalmel à Kiev pour France Culture. En Birmanie, 8 jours après le violent séisme qui a meurtri le pays, le bilan continue de s'alourdir. Il dépasse désormais les 3300 morts selon la junte militaire au pouvoir. Plus de 200 personnes sont également portées, disparues. Malgré des destructions stupéfiantes et une situation sanitaire alarmante selon l'ONU, l'aide humanitaire peine à arriver jusqu'aux sinistrés, restreinte par le pouvoir militaire. Donald Trump fait grincer des dents et la contestation s'organise. Des milliers de manifestations sont prévues aujourd'hui un peu partout aux États-Unis pour dénoncer la politique du président américain de retour à la Maison-Blanche seulement depuis 2 mois et demi. Un mouvement nommé Hands Off, bas les pattes en français, mouvement aussi attendu en France avec un rassemblement programmé cet après-midi à 15h30, place de la République à Paris. Et parmi les mesures qui font bondir les opposants à Donald Trump, il y a sa politique économique. Depuis 6h ce matin, une grande partie des produits importés des États-Unis sont désormais taxés de 10% supplémentaires. Pour le moment, les matières premières ne sont pas concernées. Un retour du protectionnisme qui déclenche une guerre commerciale et fait vaciller les bourses du monde entier. Pierre Gervais, bonjour.
Bonjour.
Invité de France Culture ce midi, vous êtes chercheur au Centre de Recherche du Monde Anglophone CRU de la Sorbonne Nouvelle. Alors, c'est pas la première fois qu'un président américain applique des droits de douane élevés. Ça a été le cas au 19e siècle et dans les années 1930. Mais est-ce que ces mesures ont été efficaces dans le passé ?
Alors oui, dans le passé, elles ont été efficaces au 19e siècle parce que c'était finalement la pratique normale au 19e siècle de mettre des droits de douane de façon à protéger des industries naissantes. Ça a été fait par toute une série de pays. Ça a été refait aussi au 20e siècle par les pays d'Asie du Sud-Est et ça a relativement bien fonctionné, mais c'était accompagné par une politique industrielle tout à fait précise de réglementation et d'incitation de la construction d'une base industrielle. Dans les années 30, c'est un petit peu différent. Les droits de douane étaient une réaction à la Grande Dépression. Ça n'a pas eu un effet extrêmement positif. Ça a plutôt contribué, semble-t-il, à la diminution du commerce international. Donc ça n'a pas aidé tellement à sortir de la crise. Ceci posé, c'est compliqué. Les économistes ne sont pas tous d'accord là-dessus. La situation actuelle est un petit peu différente, puisqu'il s'agit d'un contexte, en fait, d'attaque sur le libre-échange international qui a dominé le monde depuis pratiquement la
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que les situations sont similaires entre les années 1930 ou à la fin du 19e siècle et aujourd'hui, en 2025 ?
Non, bien sûr, puisque là, c'est tout à fait différent. Ceci posé, ça signe l'échec du libre-échange international. C'est un échec qui avait été de plus en plus discuté encore par les économistes. Le groupe de Cambridge, depuis les années 70, attirait l'attention sur le fait que l'incapacité à contrôler les flux de commerce internationaux, plus exactement le refus de contrôler les flux de commerce internationaux, conduisait à une augmentation de l'appauvrissement de certains pays. Et finalement, les États-Unis ont effectivement été appauvris, en tout cas une partie de leur population, par cette globalisation incontrôlée. D'une certaine façon, Trump met la question sur la table, ce qui serait une bonne chose, si ça ne s'accompagnait pas d'une dimension politique tout à fait agressive par rapport au reste du monde, ce qui évidemment change le sens de cette mesure politique.
En effet, on parle d'une mesure économique, mais est-ce que Donald Trump ne prend pas aussi cette mesure pour asseoir son pouvoir avec son retour à la Maison-Blanche ?
Ça lui permet d'augmenter la marginalisation, enfin d'aggraver la marginalisation du Congrès, puisque c'est normalement le Congrès qui devrait gérer ce genre de choses. Ça lui permet également renforcer un des points forts de son programme, qui était les promesses de réindustrialisation et de fin du libre-échange, qui effectivement, encore une fois, la globalisation avait effectivement créé des effets très négatifs à l'intérieur des États-Unis. Donc sur le plan politique, c'est tout à fait quelque chose qu'il pouvait faire. Le problème étant que c'est un contexte particulier, puisque normalement ce type de mesure, si elle devait être efficace, devrait aussi s'accompagner d'abord d'une relance de la consommation intérieure, et ça n'en prend pas le chemin, et d'autre part aussi du fait de ne pas favoriser certaines industries inefficaces ou certains amis personnels du président comme Elon Musk. Et là, c'est pareil, on est dans un contexte de corruption généralisée qui fait que ça risque de ne pas du tout être fait comme les gens de Cambridge espéraient que ce serait fait dans les années 70.
Alors, la Chine a répondu, elle a d'ores et déjà appliqué un droit de douane aussi supplémentaire de 34%. On attend la réponse de l'UE. Donald Trump n'a pas l'air d'être très content de ses réponses. Jusqu'où il peut aller ? Est-ce que c'est une surenchère aussi ? Jusqu'où ça va ? Quand est-ce que ça peut se terminer ?
J'évite en tant qu'historien de prévoir l'avenir. D'abord, personne ne peut vraiment le faire. Et d'autre part, Trump est très imprévisible. Et il n'y a plus de contrôle démocratique véritable sur la présidence des États-Unis. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir ce qui va se passer. Ceci posé, c'est un autre élément qui est inquiétant. L'appel à la fin du libre-échange sans contrôle et à une communauté internationale qui contrôle un petit peu plus les balances des paiements des différents pays reposait sur une approche de coopération internationale. Il est évident que si on se lance dans une guerre commerciale à l'infini entre grandes puissances, là, on va plutôt terminer chez George Orwell et 1984 et pas vers la coopération internationale du tout. Enfin, ça s'est déjà vu avec d'autres phénomènes. Ça fait déjà maintenant une dizaine d'années qu'il n'y a plus de coopération internationale. On l'a vu en Ukraine, on le voit à l'heure actuelle à Gaza. Le monde, de ce point de vue-là, va assez mal.
Est-ce que ça peut lui permettre de négocier sur d'autres plans que l'économie ?
D'instaurer le bras de fer ? Oui, normalement, oui, ça pourrait être bien sûr utilisé comme jeton dans un jeu de poker. Le problème étant que là, on sort d'un domaine dans lequel ce type de mesure aurait un effet économique positif. Si on rentre dans un domaine dans lequel la présidence des États-Unis favoriserait certains secteurs, favoriserait certains pays, etc., là, on sait que ça a des résultats économiques généralement négatifs. Donc là, normalement, ça devrait amener des crises à l'intérieur des États-Unis qui ne feraient qu'aggraver évidemment la situation.
Merci Pierre Gervais d'avoir été l'invité de France Culture dans ce journal de 12h30. Situation préoccupante sur l'île de la Réunion où le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, est attendu sur place aujourd'hui en raison de l'épidémie de chikungunya, maladie transmise par le moustique tigre qui provoque de fortes fièvres et des douleurs articulaires. On parle désormais de 10 000 nouveaux cas par semaine et on dénombre déjà 2 décès depuis le début de l'année sur l'île. Conséquence, le plan blanc a été déclenché. Marie Emeco-Pleutre, bonjour.
Bonjour Marion.
En quoi consiste ce plan blanc ?
Eh bien, comme durant la période de Covid-19, le plan blanc permet avant tout d'augmenter le nombre de soignants dans les hôpitaux en rappelant le personnel en congé, un besoin pressant sur l'île, car des dizaines de soignants ont également été contaminés au chikungunya. Par exemple, au sud de l'île, au CHU de Saint-Pierre, où se trouve le plus gros foyer de contamination, il manque chaque jour entre 30 et 35 soignants atteints par la maladie, selon l'Agence régionale de santé. Ensuite, le plan blanc permet d'ouvrir ouvrir des lits supplémentaires pour les malades hospitalisés à cause du chikungunya. Au total, 30 lits en plus. Une nécessité au regard des 129 personnes hospitalisées il y a une semaine. Pour l'instant, l'Agence régionale de santé de La Réunion parle d'une situation maîtrisée et calme, mais elle reste prudente quant au chiffre de 10 000 contaminations par semaine, comme l'explique Gérard Cotelon, le directeur de l'ARS de Lille.
On est vraiment en pleine épidémie, probablement plus de 10 000 cas par semaine, parce que tout le monde ne va pas au laboratoire, ne va pas voir le médecin pour faire un test PCR, comme on dit, et poser un diagnostic sûr. Donc je pense qu'il y en a certainement plus.
Quant au pic de l'épidémie, pour l'Institut Pasteur, il doit arriver à la mi-avril. En attendant, pour les 15 prochains jours, le nombre de cas va encore augmenter.
Marie-Aimée Copleutre, et à noter qu'un cas a été détecté à la Martinique, annonce l'ARS. Le patient est originaire de l'île de La Réunion. Marcher pour un printemps bruyant, c'est le mot d'ordre lancé par 80 collectifs de protection de l'environnement ce samedi, parmi eux notamment Extinction Rébellion et Scientifique Rébellion. Une marche contre l'utilisation des pesticides et le recul des politiques environnementales. Par exemple, en début d'année, le Sénat a voté pour la réintroduction des néonicotinoïdes, un pesticide réputé pourtant pour tuer les abeilles. Émine Bonavent, les associations demandent un changement de système.
La maladie de Parkinson, le cancer de la prostate ou encore certains troubles cognitifs, les liens entre ces pathologies et les pesticides sont mis en évidence dans un rapport de l'INSERM paru en 2021. Et pour Florence Voller, chercheuse à l'INRAE et membre du collectif Scientifique en Rébellion, ce sont seulement les conséquences connues en Europe où déjà beaucoup de produits sont interdits.
L'Union européenne exporte les pesticides jugés trop toxiques pour utilisation sur le territoire européen, donc ils s'exportent en Asie, en Afrique. En Amérique latine. Les femmes là-bas sont particulièrement touchées parce qu'elles souvent n'ont pas de protection pour épandre ces produits. Seconde chose, ces produits nous reviennent en boomerang, n'est-ce pas, dans nos assiettes avec les produits importés. C'est ce qu'on appelle le colonialisme chimique.
L'INRAE, l'Institut de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, a mis au point trois solutions pour en finir avec les pesticides en Europe d'ici 2050. L'une d'entre elles propose d'utiliser les aides de la politique agricole commune pour investir dans des pratiques agroécologiques. Il y aura moins de production, mais sans conséquence sur la souveraineté alimentaire de l'Union européenne, assure Florence Voller.
Surtout si on diminue notamment notre consommation de viande, puisque une grande majorité des surfaces cultivables, notamment en France, 62%, sont pour l'alimentation animale. Avec un élevage extensif, respectueux des prairies, de la nature, etc., on peut avoir une bonne viande, on mange deux fois moins de viande, et là, on peut aller, selon les prévisions, vers une agriculture sans pesticides chimiques d'ici 2050.
Une expérimentation de l'INRAE dans les Hauts-de-France a récemment montré qu'il n'y avait pas de conséquences négatives significatives sur le rendement, en diminuant les pesticides de 70%.
Et à Paris, la marche doit s'élancer à 14h depuis le Muséum d'Histoire Naturelle en direction du ministère de la Santé. Comment lutter contre les addictions chez les adolescents? La ville d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, expérimente une méthode islandaise développée par des chercheurs en sciences sociales. Elle repose sur la mobilisation de l'entourage familial. Et testée depuis 30 ans en Islande, elle a permis de faire chuter drastiquement la consommation d'alcool, de tabac et de stupéfiants sur l'île. La méthode est adaptée un peu partout dans le monde. Et Mathilde Vincent à Aubagne. C'est Aubagne, la première ville française à s'en emparer.
Les élèves de 3e d'Aubagne ont répondu à un questionnaire qui révèle leur consommation d'alcool ou de puff, mais aussi les facteurs qui augmentent les risques d'addiction. Céline Succi est la coordinatrice du programme Jeunes Addiction Sport Santé.
Ce qui est ressorti des questionnaires, il y a un manque flagrant de sommeil, qui est certainement en lien aussi avec leur consommation d'écran. Donc là, les chiffres qu'on a, c'est 3 heures de consommation quotidienne en semaine.
Il y a aussi des chiffres sur l'alimentation, les loisirs, la santé mentale. À partir de ces données, il s'agit de sensibiliser parents, profs, coachs sportifs et élus pour améliorer le quotidien des ados.
Plutôt que de se concentrer sur les enfants quand ils consomment des substances, on va s'intéresser à la communauté qui les entoure, à la responsabilité des adultes.
Margret Lilja Gudmundsdottir du programme Planet Youth, elle est venue d'Islande pour expliquer la méthode. Sur l'île, des mesures drastiques ont pu être instaurées, un couvre-feu pour les moins de 16 ans, contrôlé par des parents par exemple, et ça paye.
La consommation d'alcool chez les ados est passé de 42% en 1998 à 6% en 2023. Pour moi, tous les enfants, peu importe où ils sont, ont le droit de vivre une vie sans drogue.
La ville d'Aubagne doit maintenant trouver ses propres solutions adaptées au contexte local pour réduire les addictions des ados.
Et Mathilde Vinceneuf. Dialogue social tendu à la SNCF et menace de grève en mai alors que les ponts se profilent. Sudrail, troisième syndicat de cheminots, appelle les contrôleurs à cesser le travail du 9 au 11 mai. Ils réclament une revalorisation des salaires. Mouvement désormais soutenu par l'influent collectif national ASCT, le collectif indépendant des contrôleurs, dont les précédentes grèves ont été très suivies. La météo, premier samedi de vacances scolaires pour certains d'entre vous. Vous allez pouvoir en profiter avec une après-midi ensoleillée malgré quelques nuages dans le sud du pays. Température 18 à Biarritz, 23 à la maximale pour Paris.